La première,
9h-10h,
l'histoire continue, Bertrand N.
En fait, maintenant, il y a une fumée, elle paraît plutôt blanche. A priori, il y aurait donc un pape.
Gaudium magnum, habemus papam.
Rome, la chapelle Sixtine, la fumée blanche, habemus papam, l'élection d'un pape, est un rituel qui se perd dans les fils du temps. Un rituel qui accompagne le secret du conclave, mais que les médias du monde entier adorent suivre en direct, donnant une portée universelle à l'événement. Il y a 10 ans, le pape François était élu sur le trône de Saint-Pierre, premier pape latino-américain, premier pape jésuite et premier pape depuis le 15e siècle à être élu, alors qu'un autre pape est toujours vivant. La renonciation de Benoît XVI avait surpris l'Église. La tradition était que les papes meurent en charge, Benoît XVI y a mis fin, suscitant encore aujourd'hui bien des questions sur les raisons profondes de sa décision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. On revient donc 10 ans en arrière aujourd'hui sur l'élection du pape François. Élection ultra médiatisée, elle se déroule dans un contexte très particulier, donc celui de la renonciation de son prédécesseur Benoît XVI, qui a choisi de se retirer et de devenir pape émérite. Cela a conduit à une situation rarissime, que deux papes ont en même temps résidé au Vatican, situation d'ailleurs que les scénaristes ont adoré. Plusieurs films et pièces de théâtre sont consacrés à cet événement. Ce que les scénaristes ont adoré aussi, c'est que la renonciation du pape Benoît XVI était une surprise presque totale. L'explication officielle, la fatigue physique du pape, n'a en effet pas convaincu tout le monde. La traîtrise, la corruption, les finances du Vatican, les affaires de pédophilie aussi sont venues ternir la fin du mandat de Benoît XVI et fournir autant d'explications possibles à sa démission. Du coup, le pape François était très attendu, comme celui qui devrait remettre de l'ordre, réformer le fonctionnement de l'Église, ou en tout cas comme celui qui, selon ses propres mots, voulait poser un regard neuf sur l'Église. Y est-il parvenu en 10 ans? C'est évidemment la question principale à laquelle on va tenter de répondre dans cette émission. Pour ce faire, j'ai invité deux personnalités qui étaient ici en studio en direct il y a 10 ans pour commenter ces événements. Eddie Kakelbergs, bonjour.
Bonjour Bertrand.
Inutile de vous représenter à nos auditrices et nos auditeurs. Journaliste, vous présentiez donc cette émission spéciale le jour d'abord de la démission du Benoît XVI et puis l'autre émission spéciale le jour de la désignation de François. Quand vous avez entendu son nom, vous qui suivez beaucoup ces affaires-là, prononcé au balcon de la place Saint-Pierre, quelle a été votre première impression?
Alors, elle était double. À la fois parce que je mesurais dans la réaction de la foule l'attente, effectivement, la joie et l'attente de cette annonce fracassante, un pape argentin, première fois effectivement qu'on aurait deux papes au Vatican, etc., ce que vous venez de souligner d'emblée. Et puis l'attente que j'ai lue dans les yeux de votre deuxième invité aujourd'hui, qui était également l'un de mes invités ce jour-là, mais je vais lui laisser le soin de commenter cela ici évidemment.
C'est Gabriel Ringlet, ce deuxième invité, bonjour.
Bonjour.
Gabriel Ringlet, vous étiez donc, comme Eddy vient de le rappeler, également à cette table, à ce studio pour commenter cet événement. Vous êtes prêtre, vous êtes écrivain. Je glisse en plaçant que vous venez de publier votre dernier ouvrage, La blessure et la grâce, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, il y a 10 ans, quand vous avez entendu François prononcer?
C'est vrai que mes yeux ont pétillé, comme dit Eddy, parce que je n'ai pas imaginé une fraction de seconde qu'il pouvait avoir cassé le système en prenant ce prénom-là, hein, et en disant François, sans mettre ce programme en pratique. Alors François, pour moi, c'était immédiatement François d'Assise. Est-ce que nous avons un pape qui va se tourner vers les plus défavorisés? Est-ce qu'il va être un pape plus dépouillé? Est-ce qu'il va vraiment dépouiller sa propre Église? C'est tout ça qui m'est venu en tête, outre le fait que mon père s'appelait François et que ça me rejoignait jusque-là.
Mais vous nous direz, justement, dans quelques minutes après notre récit, si 10 ans après, vos yeux pétillent toujours. On se replonge dans nos archives, direction Rome, donc il y a 10 ans. Le 12 mars 2013, sous la coupole de la basilique Saint-Pierre, une procession a commencé. 115 cardinaux électeurs, vêtus de pourpre, d'une mosette sur un surplis de dentelle blanche, coiffés de la barrette cardinalis, marchent lentement au son de la litanie des saints. Ils entrent dans la chapelle Sixtine pour un conclave. Tout ici est symbole. Chaque parole, chaque geste est ritualisé pour s'inscrire dans le temps long. Les plafonds qui racontent les évangiles surveillent la scène. Les 350 figures peintes par Michel-Ange il y a 5 siècles attendent un nouveau pape. À 17h34, le maître des cérémonies liturgiques pontificales s'avance vers les caméras et photographes qui montrent ce moment hors du temps. Devant les objectifs, il referme les lourdes portes de la chapelle Sixtine, marquant ainsi le début du conclave. Le huis clos est désormais complet. Chaque cardinal prête serment et écrit sur un papier le nom de celui qu'il souhaite élire pape. Après un premier dépouillement, les bulletins sont brûlés. Une fumée noire s'échappe dans le ciel de Rome, indiquant que le conclave n'a pas réussi à élire un chef pour l'Église catholique. Une deuxième fumée noire, le lendemain midi, et puis, après 5 tours de scrutin, le 13 mars, en soirée.
Cinquième depuis le début de ce conclave, et ça y est, en fait, maintenant, il y a une fumée. Difficile de dire si elle est noire ou blanche. Elle paraît plutôt blanche. A priori, il y aurait donc un pape.
Sur la place Saint-Pierre, des milliers de fidèles se mêlent aux curieux qui sont là pour entendre le nom de celui qui va prendre la tête d'une église qui compte plus d'un milliard de baptisés. À 19h06, les rideaux situés derrière la fenêtre centrale de la façade de la basilique Saint-Pierre commencent à bouger. Puis, la fenêtre s'ouvre. Le cardinal français Jean-Louis Torrent s'avance sur le balcon tendu vers la foule. Un grand livre est ouvert devant lui. Il prononce l'immuable formule.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio apparaît une petite heure plus tard, au même balcon. Les spécialistes remarquent des petits détails qui singularisent ce nouveau pape. C'est le premier pape issu du continent américain, c'est le premier pape jésuite, c'est aussi le premier pape à avoir choisi le nom de François. Pour le reste, tout s'est déroulé selon le rituel prévu. La place Saint-Pierre, noire de monde, Habemus Papam, la fumée blanche, les fumées noires, les portes de la chapelle Sixtine qui se ferment, oui, cette élection ressemble en tout point aux autres élections papales. Sauf que l'élection de François est exceptionnelle. Car pour la première fois depuis le 4 juillet 1415, un pape apparaît au balcon de la place Saint-Pierre alors qu'un autre pape est toujours en vie. Benoît XVI, son prédécesseur, est toujours là. Le pape, désormais émérite, a démissionné, à la surprise générale un mois plus tôt. Le le 11 février 2013, commence comme un jour normal au Vatican. Les pigeons roucoulent autour des 140 statues qui ornent la vaste place Saint-Pierre. Le programme du pape Benoît XVI est minuté et divulgué aux journalistes, comme à l'habitude. Pas de changement, de la routine pour Joseph Ratzinger, cardinal allemand, devenu pape après la mort de Jean-Paul II en 2005. À 11h, le pape tient un consistoire, une réunion de cardinaux destinés à faire le point sur plusieurs béatifications. Comme de tradition, le consistoire se tient en latin. La réunion, un brin soporifique, n'attire pas vraiment les journalistes. Ils ne sont que quelques-uns dans la salle de presse qui retransmet la séance. Puis, le pape Benoît XVI prend une feuille et débite sur un rythme monotone des phrases en latin. Dans la salle de presse, Giovanna Chieri, envoyée par l'agence de presse italienne ANSA, saute sur son téléphone. Elle croit avoir compris. Le pape démissionne.
Ad conditionem certam perveni, viris meas.
Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrien. Je suis bien conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, par la souffrance et par la prière. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, suite à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié.
Giovanna Chieri téléphone au porte-parole du Vatican, mais il ne peut lui confirmer la nouvelle car le pape n'a prévenu personne ou presque de sa décision. Les vaticanistes, qui d'habitude annoncent à l'avance, les décisions les plus importantes n'ont rien annoncé. Les porte-paroles qui distillent savamment des bribes d'informations pour maintenir l'attention n'ont rien distillé. Sur un ton toujours aussi monocorde et toujours en latin, le pape Benoît XVI continue.
C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005.
Le mot est lâché. Enfin, pour ceux qui, nombreux, hésitaient encore sur la portée des mots prononcés, renonciation. Benoît XVI n'insiste pas vraiment sur ce mot, il ne s'arrête même pas, il continue sur le même tempo rapide et sur le même ton, comme si la renonciation, du jamais vu depuis le XVe siècle, était un détail de l'histoire. Enfin, il termine en demandant pardon.
Frère très cher, du fond du cœur, je vous remercie pour tout l'amour et le travail avec lequel vous avez porté avec moi le poids de mon ministère. Et je demande pardon pour tous mes défauts.
Le pape Benoît XVI pose sa feuille. Il reçoit l'accolade d'un cardinal présent dans la salle. Giovanna Chieri, depuis la salle de presse, ne reçoit toujours aucune confirmation du porte-parole du Vatican. Elle a pourtant bien compris. Elle connaît assez bien le latin. Elle décide alors de publier. L'agence de presse ANSA sera la première à annoncer la nouvelle. Un scoop mondial.
Le journal.
Présenté par Marie-Laure Stézel, bonjour.
Bonjour, un journal qui sera très largement consacré à la démission du pape Benoît XVI. Le souverain pontife a annoncé qu'il quitterait ses fonctions pontificales le 28 février prochain. Ses forces, dit-il, se sont amoindries à un point tel qu'il n'est plus en mesure de remplir sa mission.
Dans les heures qui suivent, la RTBF, comme les radios et télévisions du monde entier, entre en mode spécial. Avec une question, pourquoi donc le pape, dont l'état de santé ne s'est pas subitement dégradé, pourquoi donc le pape choisit-il de poser un acte aussi lourd de conséquences et aussi historique? Pour beaucoup, l'épuisement physique n'explique pas à lui seul la décision. Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022, a sans doute emporté définitivement la réponse avec lui. De son côté, le pape François a célébré ses 10 ans de pontificat. Récemment hospitalisé, la rumeur enflait déjà qu'il pourrait, lui aussi un jour, renoncer au trône de Saint-Pierre. Alors, Gabriel Ringlet, commençons par vous, si vous voulez bien. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, vous étiez donc ici dans ce studio pour nos émissions spéciales. Vous nous aviez dit espérer beaucoup de cette élection. Qu'est-ce que 10 ans après, en gros, sur les attentes que vous aviez, qu'est-ce qui reste de tout ça?
En tout cas, la réforme de la curie, ça, ce n'est pas rien. Je vous assure qu'un grand patron qui s'attaque à son administration centrale et qui ose dire publiquement, il y a des choses là qui ne fonctionnent pas. Hein. Rappelez-vous ce fameux grand discours, les 15 maladies de la curie. Il fallait quand même l'oser. Donc là, on se dit, il est en train de balayer. Et moi-même, qui observe quand même ces choses-là depuis des dizaines d'années, je découvrais l'état de la curie que je n'imaginais pas en être arrivé là. Donc ça, je pense que quel que soit son successeur, on ne pourra pas faire marche arrière sur ce qui s'est vraiment rencontré là-bas fondamentalement. Je pense que l'encyclique Laudato Si, c'est beaucoup plus qu'un discours sur l'écologie. Avoir un texte aussi fondamental qui met ensemble la question sociale et la question écologique et qui dit que les pauvretés dans le monde et l'avenir du climat, ça se donne la main, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est une vision d'avenir. Et d'ailleurs, ce texte est discuté dans le monde entier. Et les plus grands spécialistes hein, qui n'ont rien à voir avec l'Église catholique disent que c'est un grand texte.
D'accord. Donc, réforme de la curie, premier point, qui vous paraît quand même...
Oui.
Donc, au rendez-vous de l'histoire.
Vraiment au rendez-vous de l'histoire.
Sur l'écologie.
Un pape vert.
Oui.
Un pape qui fait basculer aussi son Église vers le sud. Hein.
Regardez. Vers la périphérie, comme
oui,
on dit.
Oui, vers la périphérie, mais ouais. Y compris la périphérie des nominations. Ouais. Hein, on va vers l'Amazonie, on a beaucoup moins de cardinaux italiens. Il est clair que le pape trouve notre vieille Europe très fatiguée. Il n'aime pas beaucoup les États-Unis. Donc là, il y a un basculement géographique. Et bien sûr, son attention, mais tout se tient. Hein. Et là, il applique son prénom. Son attention aux plus défavorisés, aux plus pauvres, aux plus marginaux, à ceux qui précisément sont en périphérie, ce fameux voyage à Lampedusa. Hein.
Son premier voyage.
Son premier voyage. Ouais. Il ouvre quand même fameusement les choses en faisant cela et il donne une énorme leçon à bien des chefs d'État du monde.
Ouais. Alors, Eddie Kackelberg, prenons peut-être les choses dans l'ordre, parce qu'on reviendra sur ces différents éléments, peut-être la réforme de la curie d'abord, mais aussi 10 ans après, par rapport au sentiment que vous avez eu, vous, lors de cette émission spéciale, quand vous avez entendu le nom du pape François prononcé au balcon de la place Saint-Pierre. Aujourd'hui, quel est votre constat?
Il ne serait pas très éloigné, en fait, de ce que Gabriel Ringlet vient effectivement déjà de développer. Alors, il ne m'appartient pas, comme journaliste, de faire part de mes sentiments personnels, de mes attaches
philosophiques. Si vos yeux ont pétillé ou pas.
Voilà, ça de mes attaches philosophiques ou non. Quoi qu'il en soit, objectivement, si tant est que ce soit possible, en observant effectivement cette décennie, on ne peut que saluer l'opiniâtreté, le courage physique et mental d'un chef d'État, d'un souverain. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une dernière monarchie absolue. Et en disant cela, je ne souligne qu'un fait, c'est que le pape est censé être le monarque d'un État, donc d'une administration qui doit aussi gérer des avoirs dans le monde, outre bien sûr sa fonction pastorale qui devrait être première et qui l'est sans aucun doute. Dans ces deux champs d'application, je rejoins parfaitement Gabriel Ringlet, avoir réussi ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pu finalement réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas fait, nous y reviendrons sans doute. Il n'avait pas tenté de le faire, mais en tout cas, il n'y était pas arrivé. Cette réforme de la curie, cette réforme des finances du Vatican, qui était teinté d'un scandale permanent et qu'il a dû affronter de plein fouet, comme son prédécesseur d'ailleurs. Ces scandales de pédophilie, sur lesquels il reste encore beaucoup à faire, cette décentration, effectivement, de l'Église catholique vers d'autres zones du monde, le fait qu'il ait pu façonné, on le sait déjà, on peut déjà l'annoncer, par les nominations, les nombreuses nominations cardinalistes. Il a déjà façonné le prochain conclave. Donc il sait que ce sont des Bergoliens qui vont élire le successeur de Bergoglio. Donc il sait qu'il peut se projeter aussi dans un certain avenir de continuité. Et en plus, je retiens ce moment où il laisse à penser qu'il pourrait à son tour, si les forces physique ou morale venait à lui manquer, ou si les pressions devenaient trop fortes à l'intérieur, il pourrait faire usage de la démission. Alors, on ne va pas tirer de plan sur la comète. Le simple fait qu'il ait, comme Benoît XVI, l'été dernier, se rendre sur la tombe de Célestin V, y déposer le pallium. Et donc, en quelque
donc
sorte...
Donc Célestin V, c'est...
C'est le fameux pape démissionnaire du
15e
siècle.
Le dernier du 15e siècle, 1415.
Alors, c'est effectivement en
c'est
référence...
C'est un symbole, évidemment.
C'est un symbole. Benoît XVI l'avait fait peu de temps avant de démissionner. Le fait qu'il aille le déposer l'été dernier ne souligne pas qu'il va démissionner dans l'immédiat, mais que manifestement, il consacre le geste en disant « Rien n'est désormais impossible à cet égard ». Ça, ce sont effectivement des actes majeurs. L'avènement en soi de Bergoglio est un événement, mais ce n'était pas aussi inattendu que ça avait l'air au moment même.
Notamment, donc, à cause de cette renonciation de Benoît XVI, fatigue physique, expliquait-il, hein, dans ce consistoire fameux, ou à la surprise de beaucoup quand même, en tout cas des journalistes qui étaient là, puisqu'ils étaient très peu dans la salle de presse, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait ce genre d'annonce ce jour-là. Évidemment, beaucoup d'observateurs du Vatican, de l'Église catholique en général, se sont dit « il y a autre chose ». Il y a autre chose, le pape doit partir parce qu'il subit des pressions ou parce qu'il estime ne plus être en mesure de contrer certaines autres écoles, je vais dire, ou autres visions au sein du Vatican. Est-ce que c'était aussi votre constat? Et du coup, l'attente sur le pape François était importante, celui qui pourrait continuer ce que Benoît XVI n'a pas pu faire.
Écoutez, une chose qui me paraît très très révélatrice, c'est qu'avant une élection, il y a ce qu'on appelle des congrégations générales.
Oui, expliquez peut-être ce
les,
que c'est.
Les cardinaux se réunissent et ont tous droit à la parole pendant quelques minutes pour dire comment ils voient le futur pape, comment ils voient les enjeux de l'Église de demain.
Oui.
Bergoglio a pris la parole 3 minutes et demie. Et il a bouleversé l'assemblée de ses confrères.
Et
en 3 minutes et demie, il a déjà donné tout le programme. Il faut aller aux périphéries, il faut se décentrer de soi-même. L'Église doit sortir, elle est beaucoup trop cléricale. Et qu'il soit élu alors qu'il vient de déclarer cela, c'est quand même très révélateur. Et ça prouve aussi que son prédécesseur était en très très grande souffrance.
Souffrance quoi?
Mais je crois qu'il n'était plus
morale,
suivi, je pense qu'il ne maîtrisait plus les troupes, et je pense qu'il y avait à l'intérieur de sa propre administration des gens qui prenaient des décisions sans s'en référer à lui, soyons tout à fait clairs.
Ah oui, parce que beaucoup ont dit Benoît XVI, qui avait beaucoup connu Jean-Paul II, qui avait été jusqu'au bout de son pontificat, jusqu'à l'agonie même, hein, on le voyait, c'était un pape qui avait été difficile à se tenir, même assis, n'aurait pas voulu terminer comme Jean-Paul II, ça a peut-être joué aussi, mais... Eddie Kekelberg, vous êtes d'accord? Ça peut être une explication, mais ce n'est pas toute l'explication.
Non, ça ne l'est pas. Il est véritablement vrai que, Joseph Ratzinger en a témoigné plusieurs fois, il avait tenté de convaincre Jean-Paul II de mettre fin à ses fonctions, qu'on lui autorise une espèce de retraite intellectuelle pour pouvoir se consacrer à l'écriture, à la recherche, etc. Bon, Jean-Paul II n'y a jamais accédé, et on connaît la suite, il est devenu Benoît XVI. Donc, évidemment, il sait au moment où il accepte la charge. Rappelons quand même que, si son nom sort, encore faut-il à ce moment-là, quand le nom sort lors du conclave, faut-il encore que le principal intéressé accepte la fonction. Hein. Donc, c'est pas gagné d'avance, il pouvait parfaitement dire non, il ne le fait pas. Ce qu'il entreprend est une course d'obstacles impossibles, en fait, à ce moment-là. Et c'est ce que François va comprendre. C'est-à-dire que gérer l'Église avec un appareil en place qui est corrompu de la tête jusqu'à la base, il faut savoir que le cardinal secrétaire d'État à l'époque, les deux successifs, celui qui a pendant 25 ans quasiment suivi Jean-Paul II, celui qui a succédé, Tarcisio Bertone, sont effectivement tous les deux, avec quantité d'autres autour d'eux, des patrons mafieux d'une organisation mafieuse. Il n'y a pas d'autre mot, il faut oser le dire, les rapports en font état maintenant. Ce n'est pas vulgaire que de le dénoncer, des procès sont en cours, y compris devant les tribunaux du Vatican, il faut le rappeler, qui frappent un certain nombre de ces prélats pour leur demander des comptes, et c'est le moins que l'on puisse dire, sur des déviances dans la gestion patrimoniale de l'Église, des comptes de l'Institut des œuvres religieuses, la Banque du Vatican, mais aussi de l'institution chargée de gérer le patrimoine et des liens avec la mafia. Il y a des trains de vie exceptionnels. Vous pourriez imaginer ce que représente notamment Bertone lorsqu'il se fait, par agrandissement successif, un appartement de 700 mètres carrés à Rome, au périmètre du Vatican. Est-ce que vous savez ce que ça représente financièrement? Est-ce que vous savez ce que ça représente?
Pardon, j'imagine pas, mais c'est énorme.
C'est énorme. Est-ce que vous imaginez aussi ce que ça donne comme message?
Oui.
C'est un potentat. Et manifestement, ce que François comprend et que Benoît XVI n'avait pas compris, c'est qu'il fallait qu'il fasse quelque chose en parallèle et qu'il dégage cette puissance. François va créer ce qu'on appelait le C8+1 ou C9.
Alors là, il faut expliquer ce que c'est. Alors, quand il est arrivé, il a fait une sorte de gouvernement bis de l'Église.
Oui, alors, il y avait des choses en parallèle.
Il
avait une sorte de petite curie parallèle.
Voilà. Ce qui n'est pas étonnant, dans la mesure où Bergoglio, même s'il arrive derrière, mais est quand même arrivé en deuxième position lors du conclave qui élit Benoît XVI. C'était donc pas un inconnu du système. C'était par contre quelqu'un dont le système mafieux se méfiait à fond. Pourquoi ? Parce que déjà à Buenos Aires, comme archevêque, il refuse les appartements d'apparat, il se contente d'un petit train de vie peu luxueux,
etc. La simplicité de François, quoi. Ouais.
Donc, évidemment...
Et il n'aimait pas la curie. Voilà. Il ne venait jamais à Rome, en fait.
Et il le disait.
Il le disait, c'est un milieu dont je me tiens étranger.
Ce qu'il fait en arrivant, parce que ce qu'il découvre en arrivant est pire que ce qu'il imaginait. Alors, il crée un conseil à côté du conseil, un gouvernement à côté du gouvernement. Il dit, voilà, je ne fais pas du tout confiance à ces responsables des 15 plaies de l'Église et de la curie romaine, donc je crée un gouvernement à côté du gouvernement. Et j'appelle des personnalités que je juge intègres et représentatives de cette Église diverse. Et avec eux, je vais y aller au forceps et je vais réformer. Et à partir de là, commencera son drame, on va le dire. Certes, il a réussi, in fine, à réformer. Il a réussi à éjecter ses patrons mafieux. Bertone n'est plus rien aujourd'hui. Les autres non plus, ou pas grand-chose. Mais est-ce que ça a pour autant complètement dépollué l'affaire? C'est pas sûr. C'est ce qui a plus que probablement coûté son pontificat à Benoît XVI. Benoît XVI n'ayant pas pu comprendre assez vite, ou pas pu réagir parce qu'il était issu du milieu. Le fait qu'il n'ait pas pu la miner parce qu'ils l'ont littéralement, moralement tué, mais quant au fait qu'il était physiquement diminué, arrêtons de rire. Il l'annonce
parce
qu'il pouvait pas dire...
Ça n'est pas l'explication principale.
Ça ne l'est pas du tout. Il mettra 10 ans à mourir. Et plutôt pendant une dizaine d'années, plutôt en bonne santé. Non, manifestement, le fait d'avoir été débarrassé de la charge l'a plutôt soulagé physiquement et moralement.
Oui, sur cette... Ce contexte que vient de décrire Eddie Kakelberg, utilise des mots forts, Eddie, quand même, le système mafieux. Vous posez le même type de constat. Et alors, sur la capacité, jusqu'où a su aller François? Est-ce qu'on est au milieu du chemin ou est-ce que les principales pierres ont déjà été posées?
En tout cas, une chose qui est très, très frappante, c'est l'incroyable hostilité à son égard de la part d'un certain nombre de milieux, et y compris hostilité publique. Je n'avais jamais entendu que de l'intérieur même de l'Église, des responsables dans certains secteurs osent démolir le pape aussi fortement. On pourrait dire que c'est bon signe qu'il y a là au sommet un véritable débat et des visions qui s'entrechoquent. Mais en tout cas, il n'y a aucune retenue. Et donc il doit être...
C'est violent quoi, Pauvre,
c'est très violent, et il doit être fameusement solide, et notamment solide mentalement, pour oser faire face à cette hostilité. Mais je trouve qu'il est bien armé, je trouve qu'il a bien engrangé des tas d'éléments pour cette réforme de la curie. Elle est en cours, et je ne crois pas qu'on pourra faire marche arrière sur ce terrain-là.
Évidemment,
ce
n'est pas des choses qu'on peut imaginer voir changer en un an ou
non,
deux.
Non,
j'imagine
non,
que
non,
le pape
c'est tout un processus.
Ce que vous disiez en mettant en nommant des nouveaux cardinaux prévoit que c'est un processus long qui va le dépasser.
Et probablement que ce processus se poursuivra, parce que, comme disait Eddy, toutes les nominations ont été faites pour qu'on reste dans le même état d'esprit. Donc ce serait une très très grande surprise qu'il y ait marche arrière après.
Allez, encore un mot sur la Curie, puis on passe sur les autres sujets, parce qu'il n'y a pas que ça, heureusement, dans le cas du Bas-François.
Mais, oui, mais pour l'essentiel, rien du reste ne pouvait être déployé sans passer par ce grand nettoyage. Jean-Paul II connaissait ces problèmes, et il aurait pu, par la longévité de son pontificat, chercher à nettoyer. Sauf que le système lui était très utile. Pendant un moment, le dévoiement, les systèmes mafieux, les systèmes d'argent sale que la Banque du Vatican et l'APSA, l'institut gérant le patrimoine immobilier dans le monde, imaginez qu'on n'en a même jamais dressé la liste complète. François essaye toujours d'obtenir la liste complète du patrimoine de l'Église, c'est vous dire. Jean-Paul II, lui, au contraire, s'est dit c'est très utile. On est à l'époque avec Reagan, dans l'ambition de faire chuter le système russe, le système soviétique. Ils vont y arriver. Il faut subventionner, entre autres, Solidarité, Solidarne, Champologne. Alors, ces canaux dévoyés servent bien la politique de Jean-Paul II. Il s'en empare. Et quand il a fini cette opération Est, on va dire, eh bien, ma foi, il se dit, c'est trop tard pour essayer de réformer quoi que ce soit. Je vais m'occuper du monde. Il devient le grand voyageur que l'on sait et il laisse Rome aux mains de sa curie. C'est-à-dire, le système se perpétue. On ne peut pas imaginer que Benoît XVI n'était pas au courant. Sauf que, comme je vous le dis, il n'a pas les moyens, à un certain moment, d'affronter
de faire face
frontalement ses ennemis qui vont le miner. Les affaires vont être dures. Hein. Je vous rappelle quand même quelques déjà fuites de documents, quelques sinistres affaires qui éclatent et qui minent littéralement son autorité. Et puis on en arrive ici à François qui lui, tout en affrontant cela, va effectivement dégager. Mais ça met 10 ans. On n'en est même pas tout à fait au bout, mais il a obtenu effectivement cette réforme de la gestion financière et de la transparence financière. Pour vous donner un dernier mot, il fallait, disait-il, que le Vatican entre dans la charte des États exemplaires sur le plan financier. Et donc, il va demander aux règles de Money Trans, hein, ce grand organisme international qui garantit la transparence financière, les règles nécessaires pour le Vatican à y obtenir. Vous allez voir que ça va être très difficile pour lui. On va passer par des épisodes rocambolesques, mais il y arrive aujourd'hui. Même s'il n'y a pas encore assez de contrôle, dit l'instance financière internationale, c'est suffisant que pour que le Vatican soit sorti de la liste des États voyous. Imaginez, des papes étaient à la tête d'un État qualifié d'État voyou. Que François réussisse, cela n'est pas banal. Au passage, dans son fameux C8, celui qu'il avait chargé, le cardinal Pell, un Australien, d'être son ranger pour dégager ça, comme par hasard quand il s'attaque à cela, on sort un faux dossier de pédophilie le concernant. Il fait 400 jours de prison en Australie pour finir par être, non pas juste remis de peine, blanchi, innocenté par les plus hautes instances de son pays. N'empêche qu'entre-temps, le mal avait été fait et qu'on avait tenté de saper. Donc c'est vous dire les forces qui sont en place contre les papes. Ah, tu veux nous miner ? Eh bien, voilà la bombe que je t'envoie.
Le Vatican est parfois un peu palais des Borgia. C'était pas très loin, Florence.
Ça n'a pas forcément changé.
On a beaucoup évoqué les problèmes de la curie auxquels a été confronté le pape François et son prédécesseur Benoît XVI. J'aimerais revenir sur peut-être les différences en termes d'autorité morale et religieuse entre François et Benoît XVI. Alors, vous aviez souligné tout à l'heure l'importance de l'écologie pour le pape François. Sa première visite à Lampedusa, très symbolique évidemment, où il parle des migrants et de leur sort. Là-dessus, il y a déjà une trace, à votre avis, Benoît XVI dans l'histoire de l'Église catholique ?
Une trace Benoît XVI ?
Oui, il y a déjà quelque chose, une rupture ou quelque chose qui est de l'ordre de la trace.
Une rupture certainement, mais une rupture de style aussi. Moi, je trouve très étonnant la manière dont François aborde et les personnes. On vient d'apprendre la mort de Jacques Gaillot. La manière dont il a reçu Jacques Gaillot, il ne l'a pas réintroduit officiellement, mais les quelques personnes qui étaient là disent qu'il y a un style François qui change vraiment la relation, même quand il n'est pas d'accord. Donc même sur des sujets sur lesquels il reste très classique, il ne juge pas, on ne se trouve pas devant quelqu'un qui est réglementaire, mais quelqu'un qui est dans une relation très forte. Et je pense que tout ce qu'on vient de dire à propos de la curie, la version positive de cela, c'est une formidable attention à ceux qui sont les plus en marge dans notre société. En fait, je pense qu'il y a chez François une véritable mise en pratique de l'Évangile. Et dans tout ce qu'il a adressé aux évêques du monde entier, il est toujours allé dans ce sens-là. C'était toujours ça, la priorité.
Oui.
C'est l'attention à ceux qui, chez vous et autour de vous, sont le plus en difficulté. Et en cela, je trouve qu'il est très fidèle à son texte fondateur.
Oui, Eddy Kekkelberg, sur ce sujet-là, et peut-être aussi rappeler, bon, évidemment, c'est des catégories qu'on plaque comme ça, observateurs de l'extérieur, entre conservateurs et progressistes. Ça, souvent, la complexité ne se résume pas à ça, évidemment, mais quand même dans cette idée qu'il a nommé plusieurs femmes laïques au sein du Vatican, qu'il a réduit le plus possible l'influence des lefévristes contre notamment ce qu'avait fait Benoît XVI. Bon, ça, c'est des éléments qui ressortent.
Il
des
s'est
éléments...
attaqué à l'Opus Dei.
Et à l'Opus Dei, voilà, c'est des éléments objectifs. En même temps, sur d'autres points, sur l'homosexualité, le célibat des prêtres, certains lui reprochent de ne pas avancer. Quel bilan vous faites, vous ?
Alors, il faut toujours commencer par rappeler que la somme des attentes peut être très anachronique. Hein.
Oui.
Celui ou celle qui attend demain qu'un pape se déclare favorable à l'IVG, à la GPA, forcément au mariage pour tous, etc., comme ça d'emblée, vont en être pour leurs frais pour l'éternité. Le premier pape se déclarant candidat à solutionner l'interruption volontaire de grossesse, je ne le vois pas. Évidemment venir et sortir du rang. Donc il faut rester évidemment dans le champ et la marge. Reprocher à un pape d'être fidèle à ses convictions religieuses, ce serait un comble. Alors après, c'est le style, c'est la façon de faire évoluer le débat ou de le refuser. Jean-Paul II avait clairement refusé toute une série de débats et l'ouverture d'une série de débats. L'église synodale était un leurre, il n'y avait pas de véritable discussion, il y a eu des décisions.
Donc l'église synodale, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce
vocabulaire. L'église collégiale, on
voilà,
va dire.
La
décision, on s'éloigne de la pyramide.
Voilà,
c'est ça.
La décision où le pape est, comme on dit, le primus inter pares, le premier parmi ses pairs, et où il réunit l'écho des églises locales.
C'est ça.
Eh bien tout cela, Jean-Paul II ne le faisait pas, et il y a eu des décisions autoritaires. Gabriel Ringlet faisait référence à Monseigneur Jacques Gaillot qui vient de décéder. Eh bien, forcément, ça a été de constater que c'est Jean-Paul II qui a forcé la démission de Gaillot. Benoît XVI, j'ai dit lors de sa renonciation et lors de son décès qu'on le jugeait mal. On l'a surnommé de sobriquet, Panzer Cardinal et autres.
Oui. Le rigorisme doctrinaire,
c'est
etc.
C'est un homme, je pense, qui remplissait sa mission. Alors, aux côtés d'un Jean-Paul II, la charge qu'il avait de dire la loi en fonction de la loi existante, la loi morale, j'entends, voilà, c'était son job, il l'a fait. Est-ce qu'il a été ce pape rigoriste ? Non. Mais est-il été ce pape qui était en mesure de s'attaquer à tout de front ? Non plus. Donc, je pense qu'on lui fait quand même de mauvais reproches, oui. Même si son style, alors soyons clairs, le fait qu'il ressorte du vestiaire, la
oui,
toque,
tous
la
les
mosée, tous les
oripeaux,
les fastes d'antan, n'étaient pas le signal progressiste qu'on attendait. En contrepartie, avec François qui arrive, vous parliez tout à l'heure dans la présentation, Bertrand, de ces moments où il apparaît au balcon. Et on se dit, ah, c'est le premier pape argentin, c'est le premier pape jésuite, etc. On remarque une série de choses. Mais ce qu'on remarque moins, mais qui est réel, c'est qu'il a refusé toute une série des bijoux d'apparat. Mmh. Il a refusé la mosette rouge,
les chaussures rouges,
les chaussées rouges, etc.
Et il donc, s'est mis à genoux.
Voilà, il se met à genoux et il dit, moi les appartements pontificaux, j'en veux pas. Je reste à la résidence Sainte-Marthe. Et alors, toutes les caméras l'ont filmé. Je vais d'ailleurs commencer par aller dans ma petite chambre louée, là, dans Rome, pendant le conclave.
Oui.
Avant le conclave. Payer moi-même la note jusqu'au dernier cent. Voilà, ce sont des gestes. Et là, évidemment, je pense que dans la démonstration, il a donné rendez-vous sur une série de points. Maintenant, est-il un progressiste ? Honnêtement, non. Sur bien des dossiers. Mais là où je rejoins Gabriel Ringlet, il dit « Qui suis-je pour juger ?»
Mmh.
Alors, ok, il ouvre le débat au sein de l'Église, il ne suspend pas toute une série de prêtres, notamment en Allemagne, qui sont dans la frange progressiste, notamment à l'égard des LGBT, etc.
Oui.
Il ne les sanctionne pas. Je pense que lui-même n'aurait pas sanctionné, comme certains de ses prédécesseurs, comme Jean-Paul II l'a fait, Hans Küng, philosophe important de l'Église. Il l'autorisera et autoriserait déjà toutes ces voix discordantes à au contraire enrichir ce débat. Bien, après, il reste le chef spirituel d'une entité avec ses logiques.
Oui. Gabriel Ringlet, là-dessus. Oui.
Mais il doit sauvegarder une certaine unité aussi à travers les continents. Hein. Si je prends par exemple la place de la femme, je suis certain, et là on peut avoir une déception.
Donc vous, on sait publiquement, vous êtes favorable,
oui,
par
oui.
exemple, que les femmes
mais,
deviennent prêtres.
Mais lui serait vraiment allé vers le diaconat féminin, je pense.
C'est-à-dire le diaconat,
c'est-à-dire que des femmes puissent être ordonnées diacres, diaconesses. C'est l'étape avant la prêtrise. Il a ouvert une porte, mais cette porte, elle ne s'est pas élargie parce qu'il a aussi rencontré des objections sur place dans sa propre organisation. Donc il n'y a pas que le système mafieux dont parlait Eddy. Il y a aussi un certain conservatisme auquel il a dû faire face et qui est tout à fait
Et il ne peut pas s'opposer peut-être à la réalité de la présence d'une vision plus conservatrice au sein de l'Église. Il doit aussi unifier, comme vous dites.
Et un autre exemple, c'est évidemment la pédocriminalité.
Oui, j'aimerais terminer là-dessus, parce que c'était en 2013 le sujet quasiment dominant.
Il a convoqué des instances au Vatican. Il a eu une commission qui a remis toute une série de décisions extrêmement concrètes. Mais pour mettre ces décisions en pratique, il s'est trouvé bloqué en partie. Et surtout, il n'a pas osé aller jusqu'au bout de cette question, c'est-à-dire jusqu'à la question structurelle que représente la pédocriminalité. Ce n'est pas qu'une affaire de déviance individuelle, c'est un système qui a pu conduire à ces comportements-là. Et là, il est resté à mi-chemin. C'est aussi une déception, mais c'est aussi un combat qu'il a mené et qui n'est pas arrivé à pousser jusqu'au bout.
Eddy Kachelberg, sur cette question de la pédocriminalité qui vraiment dominait en 2013 au moment de la démission de Benoît XVI.
Ma réponse va englober d'ailleurs la question précédente. De manière générale, lorsque François décide de prendre acte du décentrement de l'Église vers les pays du Sud, mais aussi vers les églises que l'on dit cachées en Chine, etc., évidemment, il ne s'adresse pas aux sociétés les plus tolérantes, les plus ouvertes, dans leur monde catholique respectif. Ça ne veut pas dire que ces sociétés politiques ne le sont pas. Je pense notamment à l'Argentine, au Chili, etc., qui sont sans doute des pays bien évolués un certain nombre de choses, mais leur société ecclésiastique et catholique ne l'est pas. Alors il doit en tenir compte, il ne peut pas décentrer et lutter contre ceux à qui il essaye de donner le témoin. D'une part, sur la pédocriminalité, ça restera évidemment un des inachèvements majeurs de son pontificat, mais de la responsabilité aussi de tous les dignitaires d'Église. Alors ils sont tous rattrapés jusqu'au sommet, lui-même, on l'attaque en disant qu'il n'a pas eu les réflexes suffisants lorsqu'il était en charge de l'Église d'Argentine. On voit combien de prélats sont attaqués. Je rappelle que chez nous, Mgr Daniel, ça a été récupéré par ces mêmes accusations dans l'opération dite Calice et autres. Il n'y a pas un seul endroit où les prélats ne sont pas mis en accusation de voir couvert, d'avoir simplement déplacé, de ne pas reconnaître les préjudices. Le simple fait quand même que Benoît XVI et François accepte à présent d'évoquer publiquement le scandale de la pédocriminalité, au moins offre aux victimes le droit à donner de la voix.
Merci Eddy Kachelberg. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les soirs dans le fin mot, 18h30 sur la première. Merci également Gabriel Ringlet. Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, La blessure et la grâce. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'histoire continue avec les archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Rémy.